Aujourd'hui, nous accueillons Didier Mélière comme témoin d'Ecclésia. Didier, on a eu contact avec vous parce que vous êtes auditeur dans la région de Valréas quand vous venez dans votre résidence secondaire. Mais sinon, vous habitez Paris. Toujours est-il que vous avez sorti un livre qui s'appelle « Homélie et prise de parole publique » et je me suis dit ça, il faut venir en parler, d'autant que la radio, la prise de parole orale, on connaît. Bonjour, bienvenue sur Ecclésia.
Bonjour Hélène. Alors, le titre complet, c'est bien sûr « Homélie et prise de parole publique », mais c'est aussi 30 exercices pour se perfectionner. Car, comme tout, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en s'exerçant qu'on devient chirurgien, et pour les homélies, c'est pareil. Et pour beaucoup de gens, la communication orale, c'est quelque chose de naturel. On est avec, on sait parler, donc on sait communiquer oralement. Eh bien ça, c'est faux.
C'est vrai. Je reconnais ce que vous dites. C'est peut-être faux parce qu'on l'exerce tout le temps, mais en fait, quand on communique, il y a plein de choses non-verbales qui se communiquent en même temps. Et le ton de voix et les silences et tout ça c'est important pour faire passer un message. Mais Didier, on va s'intéresser quand même à votre parcours personnel. Comment ça vous est venu de vous intéresser à la médecine et ensuite à la chirurgie?
Alors c'est très simple, mon père était chirurgien et je suis tombé dedans.
Ah.
Et je dirais que pour la foi, c'est assez pareil. Je suis né dans un milieu catholique, qui d'ailleurs n'était pas du tout catholique convaincu, catholique vraiment pratiquant, mais je dirais mollement catholique, sociétalement catholique. Et là, j'ai eu la chance donc, de recevoir les fondements de la foi. Voilà, donc pour les deux, je dirais que ce n'est pas une démarche personnelle. Je suis tombé dans les études médicales naturellement. Je n'avais pas beaucoup d'autres choix puisque je voyais mon père travailler et que c'était passionnant. Passionnant à la fois sur le plan technique et passionnant sur le plan, je dirais, recherche, innovation, agilité manuelle, création, artisanat. J'aime bien le geste de l'artisan. Et la chirurgie reste à la fois très technique, très encadrée, très structurée, et en même temps très artisanale, très opérateur dépendant.
Votre père était lui-même chirurgien?
Donc il était chirurgien, et donc je l'ai aidé quand j'étais tout jeune, et comme ça le métier m'est venu tout seul. Et pour la foi, c'est un peu la même chose.
Vous pouviez aider votre papa en chirurgie?
Un chirurgien a toujours la possibilité de faire venir occasionnellement un plus jeune pour voir l'opération, tenir les écarteurs, faire des choses extrêmement.
Mais vous étiez déjà dans les études de médecine au moment où vous êtes venu.
Non. Heureusement, j'ai fait ça donc quand j'étais en terminale et ensuite en mathélem. Donc j'ai connu ce métier, je l'ai trouvé très intéressant, j'ai trouvé l'ambiance de bloc opératoire très très passionnante, le travail en équipe, j'ai toujours aimé le travail en équipe et donc j'ai suivi. Je me suis posé quelques questions sur d'autres métiers, comme ça, en passant, mais je n'avais pas d'informations suffisantes, et donc j'étais assez fasciné par ce métier de chirurgien. Et je dirais que pour la foi, ça a été un peu pareil. Mes parents m'ont mis chez les jésuites, à Franklin. Là, je suis tombé dans un milieu qui ne me convenait pas beaucoup, ni du côté des enseignants, parce que il y avait un côté, je dirais, je sais tout, et un peu quand même dirigiste, et presque, je dirais, une éducation un peu totalitaire. Mes condisciples, pour la plupart, ils étaient là pour l'excellence des études, mais certainement pas pour, beaucoup moins pour la foi. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai été fasciné par Jésus-Christ. Donc, voilà. Puis ensuite, il y a eu trois grands événements fondateurs dans ma vie qui expliquent tout le reste. Premier événement fondateur, donc à l'âge de 5 ans, dans ma rue, nous sommes en 1942, et je vois des camarades avec qui je vais jouer aux billes la veille porter l'étoile jaune.
On est en pleine guerre mondiale.
Ils portent l'étoile jaune et quelques mois plus tard, vous le savez, les arrestations, le bruit, les camions, les cris, les appartements vides. Et quelques mois plus tard, les appartements qui sont réhabités par d'autres personnes, comme si rien ne s'était passé. Et lorsque j'ai demandé à mon papa, mais on ne peut pas faire quelque chose, mon père m'a dit, il y a très longtemps qu'il aurait fallu faire quelque chose. Ça, c'est la phrase déterminante de ma vie.
Ah bon ?
Car ça m'a poussé à anticiper. Et puis, sautons quelques années, je me retrouve appelé durant la guerre d'Algérie. D'abord, je vais dans le bled où je vois un petit peu tout ce qu'on peut voir, toutes les exactions possibles et imaginables, des deux côtés. non seulement ces exactions étaient des deux côtés, mais ils n'avaient pas le choix. Hein, ils étaient presque obligés de les faire, ces exactions. Et puis, durant ces exactions, j'assiste à des viols et j'assiste à quelques exécutions sommaires. Et là, je ne pouvais rien faire. Je me suis donc retrouvé en résonance avec ce que m'avait dit mon père il y a très longtemps, qu'il aurait fallu faire quelque chose. Et puis, troisième histoire, un peu plus tard, j'avais été médecin dans le bled, mais parce que j'avais caché que j'étais chirurgien. Et donc, on m'a rattrapé et on m'a mis dans une antenne chirurgicale et je me suis trouvé donc rapidement à la tête de cette antenne.
Vous ne vouliez pas le dire au départ ?
Non, parce que je voulais voir sur le terrain un peu comment ça se passait. Donc, au lieu de choisir en haut de la liste, je choisissais toujours en bas de la liste. C'est comme ça que je m'étais trouvé dans un bataillon disciplinaire. Voilà. Bon, donc, quelques temps après, je deviens lieutenant et l'armée me dit « Mais attendez, si vous mourrez sur le terrain, vous allez coûter beaucoup trop cher en retraite, en je sais pas quoi, là. Donc, il faut que vous alliez dans un hôpital où c'est moins dangereux. » Alors, me voilà, donc, reprendre mon métier de chirurgien et me trouver chef d'antenne. Et vers la fin de 1961, je manquais de sang. Je manquais de sang parce que le sang était donné pour beaucoup par des femmes. Or, les femmes de colons étaient parties, les femmes de militaires partaient aussi. Il n'y avait plus personne pour donner du sang. Donc, on réfléchit avec mon anesthésiste et puis le transfuseur et avec le surveillant général qui était... Un surveillant absolument FLN, donc de l'autre côté. Et on se dit, il n'y a pas d'autre solution que de trouver du sang dans la population. La population ne pourra pas donner son sang dans l'état actuel. Donc, il faut demander aux soldats du FLN. Hypothèse absurde, car mon hôpital était tenu par l'armée française. Et il n'y avait donc aucune chance que le FLN... voilà, bon, je vais voir donc le général dont je dépendais, qui me parle d'abord d'arrêt de rigueur, de je sais pas quoi, de collusion avec l'ennemi, etc. Et puis, à un moment donné, je lui dis, bon, général, écoutez, mettez-moi aux arrêts si vous voulez, mais qu'est-ce que ça change pour le sang ? Et qui, du coup, me donne l'autorisation. Et puis, comme ça, de pas en pas, j'ai eu l'autorisation de lui. J'ai rencontré Manuel Hadj sur le terrain à son PC. Et puis, la gendarmerie française, parce que j'avais besoin de camions pour transporter les gens qui viendraient donner du sang. Et puis, etc., etc. Et finalement, donc, on a eu des soldats du FLN qui sont venus donner du sang dans un hôpital de l'armée française pendant les 6 mois de la fin de la guerre d'Algérie. Alors, je me suis rendu compte là que si... d'une part, il faut anticiper, c'était les leçons que j'avais tirées, mais que surtout, si on restait assis dans son fauteuil à rien faire, il ne se passerait rien. Et que par contre, si on agissait, même quand ça paraissait insoluble, ça pouvait parfois marcher. Et là, ça a marché. Voilà.
Extraordinaire. Mais vous opériez autant des soldats français que des soldats non français.
J'opérais en fait 4 populations. J'opérais des soldats français, des soldats du FLN, des colons et des musulmans. Donc j'opérais tout le monde. J'avais militaires et civils.
Vous êtes devenu donc chirurgien dans les années 60, hein, c'est
voilà.
Ça ? C'est une époque incroyable. Tout le bond technique qu'il y a eu entre 1960 et 2019, maintenant vous n'opérez plus, je pense, mais... C'est fou comme il a fallu constamment que vous soyez à l'écoute et vous-même en formation.
Voilà, alors ça c'est le problème donc de la formation permanente.
Et oui.
Et si on revient à notre thème quand même qui sont les homélies ça fait partie aussi de la formation permanente.
Oui.
Un chirurgien qui en resterait au cours de sa carrière à ce qu'il a appris au début, durant ses études, serait très rapidement dépassé. Tout a changé, tout change en permanence, tout évolue très vite. Et l'état actuel n'est pas l'état définitif. Il n'y aura pas d'état définitif. Tant que l'homme sera homme, nous serons dans une croissance, et actuellement, cette croissance est exponentielle.
Et pour vous, c'était aussi agir. C'est agir que de se mettre en formation continuelle. Ce n'est pas rester assis sur ses acquis, mais de se dire, on est en déplacement, on est en chemin, et il faut continuer ce chemin.
Alors agir, c'est trois choses. C'est d'abord une réflexion sur le sens. Pourquoi est-ce qu'on agit? C'est beaucoup plus important que de déterminer l'objectif de l'action. Ensuite, c'est un amas de techniques qu'il faut réunir. Et donc là, il y a beaucoup de travail et beaucoup d'auto-formation. Et puis la troisième chose, c'est la volonté. Donc il faut relever les manches.
Alors avant d'en venir au fait que vous soyez intéressé à aider les prêtres à être meilleurs dans leurs homilies, et sans doute on aimerait savoir pourquoi ça vous a tenu à cœur, n'empêche que vous-même, vous êtes devenu formateur jeune. Vous êtes devenu professeur à 34 ans. Vous avez été chef d'un service de chirurgie vasculaire pendant 25 ans avec une équipe de 100 personnes. C'est pas rien. Vous avez été vous-même formateur, vous avez beaucoup publié. Donc, vous avez eu ce contact d'avoir à faire passer, transmettre.
Oui. Alors, si vous voulez, le métier de chef de service, c'est quatre métiers en réalité. Hein. C'est donc soigner et opérer. Et mon service opérait en moyenne 1500 personnes par an. C'est enseigner. Et il y avait quatre niveaux d'enseignement, plus des enseignements annexes, comme par exemple les médecins qui font les examens éco-doppler, qui ne sont pas des chirurgiens, mais je participais très largement à ce type d'enseignement, plus les infirmières, plus autre chose. Enfin donc, si on prend les quatre niveaux principaux au niveau chirurgical, pour une même maladie, on ne dit évidemment pas la même chose à un étudiant de base qu'à un chirurgien qui revient en recyclage pour faire un stage de 3 jours. Donc, à l'évidence, déterminer les objectifs, c'est un travail essentiel. Qu'est-ce que je veux faire passer? Où est-ce qu'il en est?
Et vous-même, comment vous vous êtes formé à ça? Comment vous êtes devenu bon là-dedans? Si vous étiez déjà bon personnellement, c'était des capacités innées. Est-ce que vous avez suivi des cours? Est-ce que c'est le fait d'être sur le terrain que vous êtes forgé? On devient forgeron en forgeant?
Alors, je me suis d'abord rapidement aperçu qu'il y avait un problème d'organisation des études médicales et chirurgicales en France. Et j'ai fait un stage aux États-Unis donc en 1967, et là je me suis aperçu que l'enseignement en français était dans une mauvaise structure. Vous savez, il y a des structures inefficientes qui ont été efficientes à un moment donné,
oui,
et qui ne le sont plus à d'autres moments. Donc il fallait changer. Et donc, quand je suis rentré en France, à ce moment-là, j'avais déjà une petite fonction d'enseignant. J'étais prosecteur d'anatomie, donc j'enseignais l'anatomie à des étudiants. Alors, l'anatomie, c'est pas passionnant, mais il faut donc la rendre passionnante. On voit que là aussi, il y a déjà, le secret numéro un, qui est de donner envie aux gens qui sont devant vous d'écouter, d'apprendre et de vivre ce qu'on leur propose. Bien. Donc, j'ai été à l'origine d'une réforme à ce moment-là. Au lieu d'enseigner la médecine de façon découpée par grandes strates, l'anatomie, la chirurgie, la médecine, la radio, etc., on a enseigné par bloc, le bloc cardiovasculaire, avec tout dans le bloc vasculaire, depuis l'anatomie, la médecine, la chirurgie, la radio, tout le bazar, tout ce qui concernait le bloc cardiovasculaire, pareil pour le bloc digestif, pareil pour l'ostéologie et l'orthopédie et la rhumatologie, etc. Donc, on a changé la structure, ce qui a permis à des enseignants de compétences différentes de se rencontrer et de se mettre d'accord entre eux. Et du coup, de faire un produit fini cohérent.
Et en même temps, ça facilite. Et vous avez été à l'origine de cette réforme?
Alors, vous savez, on n'est jamais totalement à l'origine d'une réforme. Je pense que j'ai beaucoup poussé parce qu'à l'époque, il y a eu mai 68 et que j'ai profité de mai 68 pour faire passer ces idées. Mais ces idées, je les avais un petit peu pompées aux États-Unis. Puis ensuite, vous savez, on n'est jamais tout seul. C'était dans l'air du temps, il fallait changer et ça a été difficile.
Et vous avez été au service de ce changement là où vous étiez?
Oui, j'ai eu la chance d'être nommé professeur à ce moment-là et de pouvoir appliquer ces idées, de trouver un doyen qui accepte qu'on révolutionne tout. J'ai eu la chance de pouvoir créer une édition médicale qui a servi pendant un quart de siècle, les cahiers intégrés de médecine ont été la base de l'enseignement pour beaucoup d'étudiants. Ensuite, j'ai eu la chance qu'il y ait une commission de réforme, parce que nous n'étions pas légales, qui me donne la possibilité de m'exprimer. Et le hasard a fait qu'au bout, on pouvait choisir entre l'enseignement traditionnel, une ligne, ou bien l'enseignement par certificat, trois pages, puisque personne ne les connaissait. Les enseignants n'ont vu que les trois pages, et du coup, la réforme est passée.
J'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire par là, au moment...
Quand l'arrêté,
oui.
Pour expliquer
oui.
ce qu'était l'enseignement traditionnel,
oui.
il n'y avait pas besoin de lignes, il y avait
d'accord.
deux lignes.
Et donc c'était pas suffisant, et l'autre, donc ils se sont plus appliqués à lire les trois pages,
voilà.
ils se sont rendus compte
donc,
que c'était cohérent et que c'était
donc
intelligent.
Donc ils ont retenu les trois pages.
Magnifique, c'est fou ça. Mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que l'importance de travailler en équipe. Donc, si vous êtes chirurgien vasculaire, vous êtes quand même spécialisé dans quelque chose de particulier. Mais n'empêche que vous avez l'intelligence de tout le reste. Et j'ai l'impression que pour les homilies, c'est un peu le même message que vous voulez faire passer, faire prendre conscience aux personnes qui parlent en direct, que d'accord, ils ont une compétence. Le prêtre qui a fait des années d'études de théologie, il a quand même des compétences. Mais ces compétences-là ne suffisent pas pour faire passer le message de manière orale. C'est ça que je comprends.
Les homélies, c'est, comme tout, un fond et une forme.
Oui.
Alors le fond, ils l'ont.
C'est ce que je dis, oui.
Reste la forme, c'est-à-dire le moyen de communiquer.
Mais,
et là, il y a des instruments.
Est-ce qu'ils ont tout le fond dont ils ont besoin, vraiment? Parce que, par exemple, vous êtes spécialisé dans la médecine vasculaire, n'empêche qu'il vous a fallu aussi apprendre d'autres choses du corps humain. Juste le côté technique des pompes et des tuyaux, ça ne suffisait pas. Il y a aussi d'autres rôles dans le corps. Le corps, une personne, elle fait une seule personne. Je veux dire, on est un. D'accord, on a notre corps, on a notre âme, tout ça, mais il y a quand même une globalité. Et le prêtre qui est juste uniquement dans sa théologie, mais qui n'a pas nécessairement fait de psychologie ou de management et tout ça, c'est compliqué pour lui comme métier de devenir curé et d'avoir à enseigner.
Mais
comprenez ce que je veux dire.
Mais bien sûr, vous avez raison, c'est extrêmement compliqué. Et on ne peut pas demander à un prêtre d'être compétent en tout. D'où l'importance pour ce prêtre de travailler aussi avec des laïcs. Lorsqu'il est curé, de s'appuyer sur son conseil pastoral, et pas seulement pour trouver dans ce conseil pastoral un relais pour ses propres idées, mais aussi pour pomper dans ce conseil pastoral les idées des uns ou des autres. Et on entend souvent nos papes dire « Attention, les laïcs autour de vous, c'est une chose importante ». Dans Evangelii Gaudium, le pape François dit donc « Sachez marcher derrière certains de vos laïcs ». Benoît XVI disait « Vous en faites des co-responsables, mais faites-en aussi des co-décideurs ». Alors, il ne faut pas semer l'anarchie dans les conseils pastoraux, mais en revanche, vous avez quand même beaucoup de curés qui n'écoutent jamais les idées qui ne sont pas les leurs. C'est-à-dire qu'ils restent concentrés sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils pensent, alors qu'à l'évidence, ils ont des compétences limitées. Et notamment lorsqu'il s'agit de milieux intellectuels, c'est plus, maintenant, je vais plus évoquer les prêtres parisiens, mais très souvent, les gens à qui ils s'adressent, sur certains sujets, y compris religieux, en savent plus qu'eux. Hein, concernant la Bible notamment, ils en savent parfois plus qu'eux. Et donc, souvent, ils sont très en porte-à-faux.
Comment est-ce que vous, Didier, ayant été chirurgien, ayant exercé un beau métier pendant des années, arrivé à la retraite, vous vous sentez préoccupé par cette question d'aider les prêtres à faire une prise de parole publique, orale, mais pas que les prêtres en plus?
Je vous ai dit déjà qu'en médecine, donc, j'avais fait passer un certain nombre de réformes.
Oui.
En fait, j'avais fait passer trois. Pourquoi? Parce que il y a des manières de faire qui ont correspondu à un temps, qui ont été efficaces dans ce temps-là, qui ne le sont plus maintenant.
Oui.
C'est ce que disent nos papes d'ailleurs en permanence. Hein. Il y a tel ou tel truc, même dans Lumen Gentium, vous le voyez marqué, Vatican II. Donc
Lumen Gentium. De toute façon, c'est l'expérience qu'on fait quand on élève des enfants. Ce qui est applicable quand ils ont 5 ans, ne l'est plus quand ils ont 12 et plus quand ils sont adultes.
Mais voilà. Bon. Alors, pour les homilies, c'est évident.
J'ai
trois petites aventures donc, que je peux vous raconter qui ont été déterminantes. La première, donc, il y a une trentaine d'années, un de mes collègues, j'ai vécu essentiellement avec des universitaires qui, pour la plupart, étaient athées, mais des athées intelligentes. Et pas des athées comme on l'entend, nous, les cathos, c'est-à-dire des gens sans foi. Mm. Ce sont des athées croyants en l'athéisme, croyants en la matière. Ils rejoignent un petit peu la philosophie de Thalès, ce qui nous ramène quand même à 2500 ans en arrière. Et ces gens, souvent à très haut niveau, parfois du niveau prix Nobel ou équivalent, ont une vision de l'Église extrêmement péjorative. Et un jour, un de mes amis me dit « J'aimerais bien voir une de tes messes parce que je voudrais voir comment ça se passe. » Alors, je savais la richesse des réunions franc-maçonnes, quand tous les 15 jours, ils abordent les grands sujets de société avec des gens de compétences multiples, puisqu'ils sont choisis dans des métiers très, très différents. Ils élaborent une pensée avec une réflexion de très haut niveau. La franc-maçonnerie a, j'en connais bien les défauts, mais cette franc-maçonnerie a vraiment toute mon estime, alors que chez les catholiques, le niveau de réflexion est quand même, disons-le, généralement assez basique.
Donc ça, c'est votre première expérience.
Donc ce trotskiste me dit... Amène-moi à la messe. Et évidemment, je me dis, c'est pas possible. Donc là, j'ai eu honte. Mm. J'ai eu honte de mes prêtres. Mm. Et j'ai eu honte moi-même d'avoir honte de mes prêtres. Enfin, j'étais dans une situation extrêmement inconfortable. Quelques années plus tard, dans une messe à Paris, une messe dans un milieu très intello, ma femme... précédente, qui est défunte maintenant, s'est mise à pleurer au milieu de l'homélie. En me disant, il devrait nous fasciner avec Jésus-Christ, et il ne dit que des banalités.
Mm.
Bon. Et puis, une troisième histoire, un jeune prêtre qui était inaudible. Je vais lui dire, plus tard il a avoué qu'il avait eu envie de me boxer, et je lui dis, écoutez, je peux, avec ma caméra, vous convertir en rien de temps et faire de vous un orateur performant. Je vous donne 24 heures pour m'appeler. Si vous ne m'avez pas appelé dans 24 heures, j'aurais compris. Il m'appelle. Je le mets devant la vidéo. La vidéo, je veux dire, que j'avais filmé, son homélie.
Oui.
Et je lui dis, bon, là, est-ce que toutes les phrases sont audibles? Il me dit, non, pas la fin des phrases. On ne m'entend pas. Bien. Est-ce que vous êtes ennuyeux, vous faites professoral, ou est-ce que on sent vraiment que vous vivez ce que vous êtes en train de nous dire? Il me dit, non, pas trop. Et je lui dis ensuite, bon, est-ce que vous avez envie de progresser ou pas? Il me dit oui. Et hop, c'était fait.
On se retrouve dans un instant, Didier Mélière.